France Inter.
Bonjour, bienvenue dans le débat de midi sur France Inter. Et ce matin, notre studio se transforme en prétoire. À la barre, j'appelle la justice avec un J majuscule. Non pas pour faire son procès, mais pour interroger son devenir à l'ère du mouvement MeToo. Depuis 7 ans, la parole se libère enfin. Les affaires se multiplient et l'institution est mise à mal. On parle de présomption de culpabilité, de tribunal médiatique, de culte de l'émotion. Défendre autant de MeToo est devenu un défi pour les avocats. Dans le cadre de violences sexuelles, quelle stratégie adopter? Peut-on encore défendre un accusé sans être taxé de sexisme? Dire à une plaignante « vous mentez » quand toute la société lui dit « on vous croit ». Ou au contraire, eh bien, faut-il aller vers une éthique de la défense? Quand un avocat prête serment, il s'engage. Je jure d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Mais avec MeToo, faut-il rajouter un caractère éthique pour ne pas victimiser de nouveau la partie civile? Débat et joute oratoire jusqu'à 12h45.
France Inter, le débat de midi, Paola Puerari.
Et cette réflexion sur la justice à l'ère de MeToo vous passionne déjà, chers auditeurs. Vous êtes très nombreux à nous écrire pour nous dire comme Fabrice. Moi, j'attends de mon avocat qu'il me défende bec et ongle. Il doit défendre mes intérêts. Il doit être mon paratonnerre. Marlène, au contraire, trouve qu'il faut de la tenue. L'avocat ne doit pas dépasser les bornes. La justice mérite une forme de dignité. Si vous voulez participer, chers auditeurs, vous nous envoyez vos messages sur le WhatsApp de l'émission 01 45 24 7000 ou comme en Antoine, eh bien vous vous enregistrez, vous faites entendre votre voix.
On peut attendre, surtout quand on est la victime, de l'avocat de l'accusation qu'il ait une éthique personnelle, une décence, un tact particulier. Malheureusement, le tact, je ne crois pas que ce soit un critère objectivable, donc on peut seulement l'espérer.
Voilà, on attend vos messages au 01 45 24 7000, vos messages, vos notes vocales sur le WhatsApp de l'émission. Et pour ce débat sur la justice à l'ère de MeToo, j'ai à ma table deux ténors du barreau qui ont marqué l'actualité cette année en participant à des procès très médiatiques. Bonjour maître Béatrice Zavaro.
Bonjour madame.
On vous a surnommé l'avocat du diable car vous avez eu la lourde charge de défendre Dominique Pellicot dans l'affaire des viols de Mazan. Également dans ce studio, maître Jérémy Assouz, bonjour.
Bonjour.
Avocat de Gérard Depardieu, au style percutant, certains ont dit brutal, on vous l'a reproché, on aura l'occasion d'y revenir. Mais je précise que je vous ai eu tous les deux au téléphone hier et qu'il n'est pas question de refaire les procès. Ni celui de Dominique Pellicot, encore moins celui de Gérard Depardieu qui est toujours en cours, donc présumé innocent. Pas question non plus de refaire vos procès à tous les deux. Hier, on a fait un pacte, celui d'avoir une grande réflexion sur la justice à l'ère de MeToo et d'avoir un débat apaisé. Maître Béatrice Zavaro, pour vous, à l'ère MeToo, est-ce que, eh bien, il doit y avoir une forme d'éthique de la défense?
Ah, c'est pas à l'ère MeToo qu'il faut qu'il y ait une éthique de la défense. C'est en règle absolue l'éthique de la défense. L'avocat doit avoir son éthique, il doit respecter ses règles déontologiques, il ne doit pas déborder, il ne doit pas déraper et il doit rester dans la ligne file de l'enseignement qui lui a été donné jusqu'à ce qu'il prête serment et au-delà dans l'exercice professionnel. L'éthique est avant tout la principale priorité de l'avocat.
Ça veut dire choisir ses mots, faire une démonstration, ne pas attaquer trop fort.
On peut le problème qui se pose, c'est que, alors je vous ai entendu quand vous avez indiqué qu'il ne fallait pas qu'on n'allait pas refaire le procès aussi bien de Gérard Depardieu que de Dominique Pellicot, dont acte. Pour autant, je peux supposer que ce qui nous vaut aujourd'hui la mise en présence de Maître Assouz et de moi-même, c'est que justement nous sommes intervenus chacun dans ces dossiers-là. La problématique, avant tout, c'est de savoir le positionnement de celui qu'on défend. Est-ce qu'il reconnaît les faits ou est-ce qu'il les conteste? Donc, fatalement, la défense ne sera pas la même de ce point de vue-là, déjà primordial. Est-ce qu'un individu qui comparaît devant sa juridiction de jument reconnaît les faits et auquel cas sa défense sera appropriée à cette reconnaissance? Ou alors un individu ne reconnaît pas les faits et à ce moment-là, l'avocat sera en charge de la démonstration de la non-culpabilité de son client. Cette démonstration, à mon sens, elle en passe par le choix des mots, mais sans, et ça c'est mon avis personnel, sans brutalité, sans débordement.
Voilà. Jérémy Assous, est-ce que vous comprenez qu'on puisse parler d'une éthique de la défense ou pour vous ça n'a pas de sens ?
Pour moi ça n'a pas beaucoup de sens. La défense, elle est régie par la loi et encore plus restrictive et plus exigeante que la loi, c'est notre déontologie. Vous avez rappelé notre serment, il faut respecter notre serment. Donc si vous respectez la déontologie, bah, par définition, vous respectez la loi. Et donc il n'y a pas besoin de s'imposer des règles morales qui sont ni dans la loi, ni dans la déontologie. Maintenant, c'est exactement ce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire ma consoeur, à savoir que la défense n'est pas du tout la même. Si vous assistez quelqu'un qui clame son innocence et donc qui est accusé à tort et donc qui est accusé de manière mensongère, puisque si il est relaxé et s'il est innocenté à l'issue de la procédure, c'est bien que les accusations étaient fausses. Versus une défense où la personne reconnaît les faits. Et là, c'est exactement ce que vient de reprendre l'auditeur que vous avez cité. C'est-à-dire que dans un procès, il n'y a pas de victime. Il y a des parties civiles et il y a un prévenu ou un accusé.
Justement, c'est
là où il faut garder, et c'est là où je rejoins complètement ma consoeur. Si vous clamez votre innocence et vous contestez les faits, la personne qui est en face de vous, c'est une partie civile qui, pour vous, porte des accusations infondées. Si vous reconnaissez les faits, c'est une partie civile à qui on peut accorder déjà le statut, puisqu'on sait qu'elle va l'obtenir, statut de victime. Et donc, en effet, l'attitude à avoir vis-à-vis de cette partie, de notre contradicteur, et de ses conseils, n'est pas du tout la même. Puisque si vous avez quelqu'un qui porte une parole que vous savez fausse, ben bien évidemment, la confrontation est bien plus brutale, violente, que si vous savez que ce qu'on vous dit est vrai, ce qui vous concernait.
Donc, vous n'avez pas de problème à dire à une femme, eh bien, vous êtes une menteuse, quand la société, quand il y a des manifestations dehors, qui dit, eh bien, on vous croit. Est-ce que vous comprenez, effectivement...
Mais justement, c'est toute la différence entre la justice et les militants. C'est que la justice, ça doit être rendue dans un climat serein. La justice, elle juge sur la base d'un dossier. Et c'est pas de l'émotion. Il y a bien évidemment de l'émotion, mais... La justice, elle est là pour rendre, pour dire une vérité judiciaire. Il n'y a pas de dogme. Le « on vous croit », moi je ne sais pas ce que ça veut dire. S'il y a des gens qui veulent soutenir les personnes qui accusent, libre à elles. Mais moi je ne crois pas parce que quelqu'un le dit. Je regarde un dossier. Et s'il y a des éléments dans le dossier qui démontrent que ce qu'elle dit est vrai, et ben là il faut en effet l'accompagner et on a une... un rôle en tant qu'avocat de la défense, mais également avocat de la partie civile, de conduire à une bonne justice. À
un bon... Alors, si une bonne justice, les auditeurs veulent déjà intervenir, et ils font partie de ce débat. Cécile Marie nous dit, est-ce qu'une bonne défense n'implique pas que l'avocat ait du respect aussi pour la partie civile ? Est-ce qu'un comportement irrespectueux n'est pas défavorable au client, quoi qu'il en soit ? Je vous pose la question
bien
à tous les deux.
Moi, c'est évident.
Je pense effectivement qu'elle a tout à fait raison. On ne doit pas être contre-productif. On ne peut pas aller à l'encontre d'une victime ou d'une partie civile, hein, quel que soit le contexte, mais on ne peut pas aller à l'encontre d'une femme et quand bien même on puisse penser qu'elle mente, je ne suis pas certaine que le verbe mentir soit approprié dans une salle d'audience. Je pense que c'est très réducteur de dire à quelqu'un « Madame, vous mentez ». Je crois qu'il faut, peut-être arriver au contraire, avec les éléments objectifs que nous avons au dossier, lui dire « Je vais vous faire la démonstration que ce que vous dites me semble totalement hors sujet et que ça ne colle pas à l'accusation et ça ne colle pas à la culpabilité que vous voulez apporter, enfin que vous voulez décerner à mon client. Je pense qu'on peut tout dire, mais il y a façon et façon de le dire. Voilà, à mon sens.
Qu'est-ce que vous répondez ?
Je pense que c'est ça.
Je réponds que c'est assez intéressant, puisque je rappelle souvent à mes stagiaires ou à mes collaborateurs quelle est la différence entre une erreur et un mensonge. La différence, c'est que les deux disent quelque chose d'inexact. C'est la bonne foi. Vous pouvez vous tromper. Et là, vous êtes dans l'erreur. Et là, c'est en effet quelqu'un qui pensent dire la vérité, mais ils se trompent, on démontre qu'ils se trompent, et dans ces cas-là, c'est une erreur. Mais si vous rapportez la preuve que cette personne dit volontairement quelque chose d'inexact, en toute connaissance de cause, dans ces cas-là, c'est un mensonge. Et je crois, moi, au contraire, que c'est même une obligation pour l'avocat, lorsqu'il fait la démonstration que ce qui a été dit de manière inexacte, l'est dit en toute connaissance de cause, et c'est notre rôle que de dire, madame, ce que vous dites, ce n'est pas la vérité, ou monsieur. Parce que, quand même, ce qui est très intéressant de ce que vous dites...
Alors, je vous trouve très poli, Jérémy Assous, là, mais je le suis, dans ce je studio, le suis, je... mais effectivement, vos mots... pendant ce procès, ont un petit peu dépassé le
pas
cadre
du tout.
De...
Absolument pas.
Bon, alors, moi j'avais entendu quand même, en tout cas je crois que vous aviez dit que certaines femmes avaient un rire hystérique,
ah
je
non,
crois.
Non, mais non, mais alors, soyez précise.
Alors, je vais être tout à fait précise alors, parce que j'ai précise. Les déclarations. D'accord. Attendez que je retrouve
vous
mes petits
pas
papiers.
Vous
n'oubliez
pas parler du dossier de Pardieu, mais on va en parler non. à la fin de l'audience. Mais moi, ça me va très bien, puisque vous voyez, tout de suite... vous avez immédiatement dit, on ne peut pas dire à une femme, vous mentez. Mais je ne dis pas à une femme ou à un homme en particulier, ou même à un adolescent. Je dis à la personne qui porte l'accusation. Peu importe que ce soit une femme, un homme ou un ado. C'est pas en fonction de son genre. Le mensonge n'est pas quand même réservé à la gente masculine. Enfin, vous êtes bien placé pour savoir que une femme peut mentir. Maintenant, en ce qui concerne les mots choisis, dire... quelqu'un qui porte une accusation qu'on sait fausse, qu'elle ment, bon, moi, je ne vois pas ce qu'il y a de scandaleux. Et c'est tellement pas scandaleux que c'est autorisé. D'ailleurs, c'est pas contraire à la moindre éthique de qui que ce soit. Et en ce qui concerne, si vous prenez des qualifications que vous avez considérées qui étaient brutales, etc., à partir du moment où vous avez des confrères, des contradicteurs, que ce soit des hommes ou des femmes, c'est aucune incidence et aucune différence, qui elles-mêmes ont des mots très violents et qui sont illégaux. Par exemple, mes contradicteurs dans le procès de Pardieu ont dit dès le premier jour, alors que je soulevais des points de procédure, qu'elles voulaient me mettre des tartes, que j'étais un imbécile, qu'il fallait absolument me faire taire, parce que je faisais juste du droit. Bon, et qu'elles disent que je suis hystérique. À partir du moment où... on relève qu'à un moment, il y a un hurlement suivi d'un éclat de rire et que je dis, dites donc, l'hystérie est partagée. Là, tout de suite, on ne retient que ça. Donc, vous voyez, les mots.
Je vous pose une question, Jérémy Assous.
L'audience, parce que... mais je termine juste là-dessus, parce que je ne pense pas qu'on va revenir longtemps.
Mais non, on ne va pas y revenir longtemps.
L'audience s'est très, très bien passée, à tel point que le président Thierry Donnard.
Très, très bien passée, je ne sais pas.
Si Thierry Donnard n'a jamais fait la moindre remarque à mon égard, alors qu'il n'a pas hésité à user de son pouvoir de police à de nombreuses reprises.
Alors, je vous rappelle quand même qu'effectivement, les juges,
si
en plus de la peine d'agression sexuelle dont vous avez appel, a indemnisé chacune des plaignantes à hauteur de 1 000 euros pour un préjudice secondaire, en plus de leur agression pour des propos outranciers. Tout ça est en appel.
Lesquels ? Quels propos outranciers ?
Alors, attendez, parce que moi j'ai une question très intéressante à vous poser. Est-ce que c'était une stratégie ? Parce que pendant tout ce procès de Gérard Depardieu, on a très peu parlé de Gérard Depardieu. Et finalement, vous avez fait ce paratonnerre, vous avez fait ce paravent, vous avez effectivement été une figure un peu de défense. C'est-à-dire que vous avez pris la haine qu'il y aurait pu y avoir contre Gérard Depardieu, vous l'avez enrobé, vous avez été un bouclier. Est-ce que c'était une stratégie ? Et pour vous, est-ce que c'est le rôle d'un avocat de se mettre devant son client ?
Ben, je pense que le rôle d'un avocat, c'est ce qu'a dit votre auditeur. C'est-à-dire que ça, toute personne qui est confrontée à la justice, qui plus est à la justice pénale, c'est de défendre. Et je suis pas là pour plaire, moi je suis là pour défendre. Donc si le fait de défendre une personne qui a accusé à tort, c'est de subir les coups et de parer aux coups qui lui sont destinés, bah, je crois que je remplis au mieux mon métier. Vous savez, être détesté, Henri Leclerc avait été détesté, les avocats de Villemain avaient été détestés. Toute personne qui est présentée comme étant un auteur et qu'il faudrait même se passer du procès et qu'il faudrait directement le lyncher sur la place publique, toute personne qui s'interpose, et c'est encore le rôle de l'avocat, est assimilée à cette personne. Mais je crois que c'est plutôt à mon honneur comme
alors,
remarque ou comme conclusion.
Je vous le laisse, mais effectivement, c'est selon vous à votre honneur. Béatrice Zavarro, vous racontez dans votre livre « Défendre Dominique Pellicot » que vous avez dit à Dominique Pellicot « C'est vous et moi contre le monde entier ». Quand on défend un accusé, dans un procès aussi médiatique, est-ce qu'il peut y avoir une solitude de cet avocat ?
Ah ben, c'est pas qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a eu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous êtes dans une salle d'audience, mais alors là, pardon, on vient de parler de Depardieu, donc on va parler, je vais citer mes mots en faisant un exemple dans le dossier Pellicot. Quand je suis seule à la défense de Dominique Pellicot et que j'ai face à moi 50 hommes accompagnés de chacun de leurs avocats, plus l'accusation, plus la partie civile, il est bien évident que, et que chacun, à part certains qui ne corroborent pas la thèse de Dominique Pellicot et les mots Dominique Pellicot, il est bien certain que je suis seule et que je suis seule contre tous. Oui, c'est une... De toute façon, en règle générale, sortons du dossier Dominique Pellicot et sortons du dossier Gérard Depardieu. Quand vous êtes à la défense d'un homme qui n'est pas aimé parce que on lui incombe et on lui porte une accusation de faits qui sont détestables, on est seul.
Alors, voilà. Est-ce que vous avez hésité à prendre ce dossier? Est-ce que aujourd'hui, les avocats pénalistes hésitent à prendre ce dossier, Béatrice Avaro?
Non, j'ai toujours dit que je refusais de refuser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas hésiter à prendre la défense d'un homme qui vous demande de l'accompagner dans un moment de sa vie très compliqué pour lui. Après, je fais vraiment état de la clause de conscience qui nous est propre et qu'on pourrait effectivement, par laquelle on pourrait effectivement refuser la défense d'un homme. En revanche, on peut largement se déporter de la défense d'un homme si on estime qu'on en devient le béni oui-oui et que on doit être aux ordres, entre guillemets, de ce qu'il souhaite dans le chemin de sa défense. Et si moi, personnellement, j'estime que ce chemin-là n'est pas du tout approprié et qu'à terme, il ne lui sera pas favorable et que malgré tout, il veut persister dans ce chemin-là, alors à ce moment-là, je préfère me déporter et qu'il fasse choix d'un autre avocat.
Jérémy Assous, est-ce qu'on prend un risque aujourd'hui en défendant un accusé dans un procès très médiatique de MeToo?
Bah, ça dépend le positionnement. C'est exactement ce que vient de dire ma consoeur. Si vous défendez quelqu'un qui reconnaît les faits, même si c'est le pire criminel et votre client en fait partie, quoi. Il est quand même dans le top 10, voire 5 des pires criminels.
Ah, on va pas refaire le dossier. Non, mais
il a plus de 50 viols à son actif, au minima.
Non.
On va pas faire deux poids, deux mesures. On a dit qu'on
n'avait pas le dossier Depardieu, vous connaissez pas le dossier Pellicot.
Mais justement. C'est intéressant. Si vous défendez quelqu'un qui reconnaît les faits, c'est pas du tout la même chose. Et socialement et médiatiquement, c'est pas la même.
Mais
bien évidemment, c'est pas du tout la même chose que si vous défendez quelqu'un qui conteste les faits. Et on peut pas comparer Depardieu à Pellicot. Moi, je suis poursuivi pour avoir posé ma main sur.
Alors la question, c'est pas ça. La question, c'est est-ce que les avocats hésitent à y aller aujourd'hui?
Mais bien évidemment. Et ils hésitent. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on est dans une société, dans une époque, et vous, les médias, en êtes en très grande partie responsables, où il n'y a plus de nuances.
Alors,
vous associez toute accusation qui est toute infraction, donc ça va du délit au crime, qui est le viol avec violence ou surprise, etc.
Retenez vos mots, Jérémy Assous, parce que ça va être l'objet de la deuxième partie du débat. On va parler du tribunal médiatique dont vous parlez, car vous accusez les journalistes d'être devenus un peu des procureurs. La justice d'opinion a-t-elle détruit la présomption d'innocence? On va vous poser la question dans un instant et on écoute Feu Chatterton. On va aller voir un peu plus loin sur France Inter.
Que les gens d'ici pensent, s'il n'est pas partout la même heure, il y a peut-être une chance que l'herbe soit plus verte ailleurs. Souvent tu attends la nuit quand plus rien ne fait mal et tu rêves que tu t'enfuis à la nage par le canal. Tu rêves d'un grand pays, d'une vie qui enivre, comme celle que tu lis dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Yeah.
envie d'aller voir par toi-même faire tes preuves. Et si c'était la mer à boire, eh bien que la mer t'abreuve. Le ciel sera toujours bas à ceux qui vivent sans courage. Tu ne les écoutes pas quand ils disent ce n'est pas de ton âge. Et tu vas vers ce pays, vers cette vie qui enivre, comme celle que tu lis le soir dans les pages des livres. Il est temps de vivre.
France Inter. Le débat de midi.
On est toujours ensemble jusqu'à 12h45 sur France Inter pour interroger la justice à l'ère MeToo en compagnie de deux ténors du barreau, Maître Zavaro qui a eu la lourde charge de défendre Dominique Pellicot dans l'affaire des viols de Mazan, qu'on a surnommé l'avocat du diable, et Maître Assous, avocat de Gérard Depardieu, on peut le dire l'enfant terrible du barreau dont le style très offensif a marqué les esprits. Vous êtes très très nombreux à nous écrire sur le WhatsApp de l'émission 01 45 24 7000 dont Valérie qui n'est pas contente et qui nous dit ses avocats s'expriment. On ne peut plus clairement, peut-on demander à la journaliste d'être plus objective et de ne pas interrompre ses discours exprimés? Bien noté Valérie, mais il y a tellement de questions à aborder qu'effectivement on voulait parler de la présomption d'innocence et justement une avocate spécialisée dans le droit des femmes nous a écrit.
Je crois qu'il est important de rappeler que la présomption d'innocence, c'est un principe qui oblige l'institution judiciaire, c'est un principe qui oblige la presse, mais les plaignantes, elles dénoncent, et donc elles ne sont nullement tenues au respect de ce principe-là. L'idée selon laquelle la présomption d'innocence serait désormais mise à mal ou écornée devant l'institution judiciaire parce que il suffirait de finalement accuser pour obtenir un jugement de condamnation est une idée fausse. Il suffit de pousser la porte des tribunaux pour s'en apercevoir. Les paroles accusatrices, les dénonciations, elles sont soumises au contradictoire, elles sont investiguées, elles sont questionnées et elles doivent être corroborées par des éléments de preuve pour que emporter l'intime conviction des juges.
Maître Zavaro, on entend ce point de vue, le travail journalistique existe et il peut fonctionner en même temps que la justice. Pour vous, est-ce que la présomption d'innocence est en danger à l'ère aussi des réseaux sociaux? Est-ce que la présomption de culpabilité va l'emporter?
Moi, j'ai prêté serment en 1996 et j'ai toujours pensé que la présomption d'innocence, notamment dans ces affaires-là de violences sexuelles, a toujours été mise à mal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une femme accusée, j'ai toujours pensé, et j'en ai eu l'expérience malheureusement dans certains dossiers, on incarcère d'abord et on réfléchit ensuite. Quand j'entends mon confrère nous dire qu'il y a des paroles accusatrices qui doivent être soumises au contradictoire, tout ceci est vrai, mais tout ceci se passe dans le cadre d'une instruction dans laquelle le pas de la détention a déjà été passée. Et c'est bien malheureux parce que il faut quand même se rappeler que très souvent, c'est objectif ce que je dis, hein, je ne critique rien, mais très souvent, la violence sexuelle, c'est entre deux êtres, dans un huis clos total, et ça devient la parole de l'un et la parole de l'autre.
Alors, je vais quand même objectivement vous rappeler ce chiffre. En France, 86% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite pour infractions insuffisamment caractérisées. Vous êtes en train de dire qu'il y a 86% de femmes qui
mentent. Non, pas du tout. Je dis pas ça. Je dis simplement que moi, ce que j'ai eu à connaître m'a démontré que la réflexion, entre guillemets, de la culpabilité était plus rapide que la réflexion sur la présomption d'innocence. Et que, malheureusement, on avait un débat et on avait un échange et une instruction qui devait être menée, mais quand, encore une fois, l'individu était déjà privé de liberté. C'est ça que je dis, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'on devrait avoir un peu plus de recul, parce que l'accusation d'une violence sexuelle, c'est une accusation lourde. Quand l'individu est déclaré coupable, c'est lourd, et c'est normal que ça soit lourd, mais en tout état de cause, c'est une incrimination qui est lourde, et il faut y réfléchir avant de...
Jérémy Assous, mais faire comment vous expliquez que la parole se libère? On dit aux femmes, effectivement, on vous croit, on les invite à parler, on voit bien qu'il y a toute une société qui se libère. Comment est-ce qu'on fait confiance à une femme quand elle ose enfin parler, et on sait le courage que ça demande, sans effectivement tomber dans la présomption de culpabilité?
C'est très simple. Vous avez quelqu'un qui porte une accusation et on confronte, ça s'appelle le contradictoire, hein, on confronte sa version à celle qu'elle met en cause, s'il conteste les faits, et on voit si c'est pas truffé d'incohérences. Si ça ne l'est pas, le juge ou le tribunal décide et condamne. Si ça l'est, il relaxe ou il classe. Donc c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. À partir du moment où on a une justice digne de ce nom. Mais je ne crois pas, moi, ce qui est incroyable aujourd'hui, et c'est pour ça que l'avocate qui a été enregistrée, qui vient d'être diffusée, c'est intéressant, elle dit l'accusation n'a pas à retenir, parce qu'il y a la présomption d'innocence, bien évidemment, elle bénéficie à la personne poursuivie, mais celle qui accuse n'a pas à utiliser le conditionnel, elle a le droit d'affirmer. Mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais elle a le droit de dire j'ai été violée, et nous, on a le droit de dire c'est pas vrai, et c'est inexact, et on va vous démontrer que ce que vous dites, c'est faux. C'est-à-dire que c'est le principe même de la confrontation, puisque le « on vous croit », il n'y a pas plus dictatorial que ce slogan. Il n'y a pas plus autoritaire que ce slogan. Et c'est vraiment, d'ailleurs, c'était le slogan, c'était la logique du parquet en URSS. C'est-à-dire, le parti ne peut pas se tromper. Parce que vous partez du principe qu'une personne, à la condition que ce soit une femme, j'ai bien compris, qui porte une accusation d'agression sexuelle à l'encontre d'un homme, ne peut pas mentir. Je vous dis, écoutez, je n'ai pas de dogme en la matière. Je regarde un dossier. Et en fonction du dossier, je peux vous dire, oui ou non, ce qui est dit est inexact, et elle le dit de bonne foi ou de mauvaise foi.
Alors, certaines féministes diraient que cette phrase, cette formule « on vous croit » invite les femmes à la parole et qu'elle n'est pas du tout stalinienne, mais au contraire une invitation à la confiance. Alors, pour restaurer cette confiance en la justice, est-ce qu'il ne faudrait pas les ouvrir à la presse, les filmer, même pour la première fois, un procès pour viol a été filmé et diffusé le 26 mars à la télévision, sans voyeurisme, ce documentaire qui plongeait le téléspectateur dans la justice française. Est-ce que pour vous, ça serait une bonne chose que ces procès soient filmés?
Une excellente chose. Et pas seulement les procès pour viol ou agression sexuelle, mais tous les procès. Comme ça, l'auditeur, le téléspectateur, le public pourrait se faire vraiment sa propre opinion et pourrait voir, par exemple, et là, excusez-moi de parler du procès de Pardieu, pourrait voir à quel point il y a un décalage entre ce qui est retranscrit dans la presse avec la réalité. Et d'ailleurs, ça mettrait aussi en avant et ça mettrait une pression sur tous les acteurs du procès, qui serait une pression extrêmement saine, notamment bien évidemment les avocats, mais également le parquet, qui serait peut-être tenu à un peu plus de rigueur et pas prendre des réquisitions générales, puisque de toute façon il a le vent dans le dos il dit il y a aucune raison que la partie civile ne déclare pas la vérité. Et ça mettrait également une pression sur les juges du siège, que ce soit le tribunal ou les cours, puisque on pourrait voir leur parti pris ou pas. Mmh. Et là, ça aurait évité à certains de soutenir que, par exemple, le tribunal, en ce qui concerne M. Depardieu, avait fait preuve d'une absence totale de réaction et limite d'un favoritisme. Et il en a eu, et ça c'est très important, puisque ça revient sur la pression médiatique, il a eu tellement peur de cette accusation, puisque c'est une accusation qui neutralise, et c'est une accusation qui vous exclut, puisque là, on aurait pu lui faire un procès d'intention, qu'il s'en est sorti.
Se mettre à sous parce que leur
file... En appliquant une décision de justice qui n'a aucun sens en droit et qui est critiquée par tous.
Est-ce que c'est pas le risque aussi, si on filme les procès, d'avoir un tribunal spectacle, comme par exemple certaines études l'ont montré à l'Assemblée nationale, où effectivement des députés font tout pour être repris sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas le risque, justement, d'avoir une justice spéciale, spectacle non. très médiatique, mmh. Béatrice Zavarro?
Non, mais je veux dire, il y a deux façons. Soit on filme à des pour des vertus pédagogiques, je dirais, soit on filme en direct, et auquel cas ça restera un spectacle entre guillemets pour celui qui le regardera, mais qui ne pourra heureusement ne pas intervenir. Moi je regrette, dans le dossier Pellicot, je regrette que ce procès n'ait pas été filmé, parce que je crois qu'aujourd'hui on nous demande les enseignements de ce dossier avec tous les enjeux qu'il a créés, et il aurait été à mon sens de bon ton qu'il le soit. Mais en revanche, spectacle ou pas spectacle, film ou pas film, l'avocat reste l'avocat. C'est-à-dire que quand même la société change, la société évolue, la justice ouvre ses portes à la presse et aux médias, l'avocat doit rester le même. Et il ne doit pas être influencé par justement l'ouverture de ses portes et par une justice qu'on voit de plus en plus souvent ou qu'on veut examiner de plus près via peut-être les caméras. L'avocat doit rester l'avocat.
Alors, dans la prochaine partie de ce débat, on va revenir sur ce chiffre. 86% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite pour infractions insuffisamment caractérisées. Est-ce qu'on doit conclure il y a 86% de menteuses ? Ou alors est-ce que notre système judiciaire n'est pas adapté pour accueillir la parole des victimes qui se libèrent de plus en plus, pas assez de moyens, les tribunaux pour mener sans enquête ? Est-ce qu'on devrait ouvrir à des justices privées, des justices d'exception.
Life is just like a settlement, waiting for you to cash on it. Life is just like a bike, it don't move unless you pedal. Then less about who is better and more about who blessing them. Softer than gelatin, peanuts than elephants. You dumb as a boceros if you think it's irrelevant. My granny been popping zanny since CBS met the nanny. My mammy dandy, she tripper than Annie. And I'm not talking to family, but I've been dreaming of fishing since I've been watching the Grammys. And I'm here to stay like the shit in your panties. I need some standing ovation since y'all can't seem to understand me. I might look fly in the matrix, I hope I'm sticking my landing. No need to bring fall back in August, September. You should just fall back in. Wait. Who wants to clear the fog and all the smoke in your mirrors? Well, you could just fall back in. Wait. Delete your call log and clear your agenda. You should just eat what's on your. To my crib, still a baby by day, bad bitch by night, still applying my gloss from red to green light. Niggas calling my phone, bitches calling my phone, private calling my phone, blocking you off my phone. Bill collectors, roach and bug inspectors calling my phone. Who you checking if I'm disrespecting you with my tone?
Toujours ensemble jusqu'à 12h45 sur France Inter avec Maître Assous, l'avocat de Gérard Depardieu et Béatrice Zavaro. Vous êtes très très nombreux à nous écrire sur le WhatsApp de France Inter au 01 45 24 7000 et Sandrine s'est enregistrée.
Je tiens à dénoncer une justice qui ne fait pas son travail, fumiste, sexiste, campée sur des postures patriarcales et c'est exécrable.
Sandrine qui dénonce donc une justice patriarcale. Jérémy Assous, est-ce que vous rejoignez ce témoignage ?
C'est idiot. C'est-à-dire que la justice, elle n'est absolument pas patriarcale. La justice, elle n'est pas aussi rapide qu'un tweet. Donc en effet, ça doit faire partie des personnes qui doivent hurler « on vous croit » sur les parvis des juridictions. La justice, ça se rend pas en 3 minutes. Donc surtout que dans ces affaires-là, puisque une condamnation, quelle qu'elle soit, même pour des faits qui n'ont pas la même gravité que d'autres, comme des faits criminels, donc si vous êtes juste poursuivi pour des faits de... même de harcèlement sexuel ou de simples faits, par exemple d'être accusé d'avoir posé votre main sur une fesse, vous êtes exclu socialement. C'est-à-dire que la peine sociale est la même pour tous, et on le voit avec Nicolas Bedos. C'est-à-dire que vous êtes damné, vous êtes un paria, vous êtes exclu. Donc de dire que la justice est patriarcale,
Alors, on ne peut pas revenir malheureusement sur toutes ces affaires personnelles. Émilie veut tout de suite répondre à ce que vous venez de dire. Elle dit, vous débattez comme si les femmes étaient des plaignantes classiques. Il faut considérer le fait qu'elles ne sont généralement et majoritairement pas crues. Leurs agresseurs ne sont pas condamnés, même quand leur culpabilité est prouvée.
Suffit avec ça, c'est totalement faux. J'invite ces personnes-là à aller dans n'importe quelle juridiction, quelle qu'elle soit en France, et elles vont aux audiences qui jugent les faits d'agression sexuelle, ou elles vont dans les cours d'assises. Et elles vont voir que la justice, elle passe et qu'elle est extrêmement sévère. Donc tout ça, c'est des affirmations.
Alors, on va poser la question à Isabelle Rome, qui est avec nous au téléphone. Vous avez été magistrate, ancienne ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je rappelle ce chiffre. En France, 86% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite pour infractions insuffisamment caractérisées. Est-ce qu'on n'a pas un train de retard en France quand on voit des pays à la pointe comme l'Espagne? Est-ce qu'il ne faudrait pas améliorer la chaîne pour accueillir la parole des femmes?
Oui, bonjour. D'abord, j'aimerais quand même rappeler deux ou trois fondamentaux. D'abord, la justice, elle se rend en application de la loi, donc en l'occurrence de la loi pénale. Elle se rend en vertu de grands principes fondamentaux, qui sont la présomption d'innocence, le respect du principe du contradictoire et aussi le respect de la dignité humaine. Et tout cela amène à dire que la sérénité aussi doit être le maître mot des débats. J'ai présidé pendant longtemps des tribunaux correctionnels ou des cours d'assises, des cours criminelles, et je pense que la sérénité permet de mieux appréhender justement la recherche de la vérité, que cette sérénité, elle est au service de la recherche de la vérité pour l'une comme pour l'autre des parties. Donc ça me semble important
de le rappeler.
De rappeler ça. Ensuite, les 86% de classements sans suite, eh bien, moi, c'est une question que je pose déjà depuis un certain temps. Souvent, on se rend compte que les affaires sont classées sans suite dans les viols parce que il n'a pas été rapporté l'un des éléments constitutifs de cette infraction de viol, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu prouver qu'il y avait une violence, qu'il y avait une contrainte, une menace ou une surprise lors donc de la commission d'un acte de pénétration sexuelle. Il est évident qu'il serait complètement fou de dire que 86% des plaignantes, qui sont majoritairement donc des femmes, sont des menteuses. Et il est aussi incorrect de dire que ce chiffre serait dû seulement à un mauvais travail ou un travail insuffisant des policiers, des gendarmes et de la justice. Et donc c'est pourquoi je pense qu'il faut bien sûr travailler davantage encore sur les enquêtes pour approfondir davantage les investigations, ne pas justement se satisfaire de ce qu'on dit souvent parole contre parole, parce qu'en fait c'est pas ça.
Alors, Isabelle Rome, puisque je vais citer cet exemple, mais il y en a d'autres. Par exemple, la militante féministe Caroline Dehas, fondatrice de Nous Tous, a fondé son cabinet de conseil qui s'appelle EGAE, qui a été par exemple entrepris par Emmaüs. Emmaüs a fait appel à ce cabinet pour les accompagner sur leur enquête interne à propos des agressions sexuelles commises par l'abbé Pierre. Est-ce que c'est une bonne chose qu'on confie ces enquêtes à des cabinets privés, ou est-ce qu'on se dirige vers deux formes de justice, Jérémy Azouz?
C'est évidemment une très mauvaise chose, puisque ça privatise la justice. En soi, pourquoi pas le donner à des tiers? On confie bien des missions à des experts qui sont des personnes privées, qui sont payées par la justice et qui sont même parfois très bien payées. La différence, c'est que la personne qui rémunère est le donneur d'ordre et la personne qui pourrait être potentiellement mise en cause. C'est-à-dire que c'est une confusion des genres totale, puisque vous êtes jugé parti. Il serait intéressant, puisque la décision a été rendue hier dans l'affaire qualifiée, enfin dite d'Ubisoft, s'il y a eu recours à ce type de cabinet privé, puisque tout le monde a dénoncé le fait que, comme par extraordinaire, la direction d'Ubisoft n'avait jamais été inquiétée. Alors, est-ce que c'est sur la base de cabinets privés rémunérés et choisis par la direction qu'il y a eu cette enquête initiale, après qui a été reprise par la police, bien sûr, mais ça biaise irrémédiablement le début de l'enquête.
Est-ce que ça ne pallie pas justement à des manquements de la justice, à des lenteurs administratives, à un service judiciaire débordé, Béatrice Lavarro?
Non, mais je pense qu'il faut quand même distinguer deux choses. Soit on est sur le domaine, et il me semble que c'est le débat qui nous préoccupe aujourd'hui, des violences sexuelles, et je réponds à la question. Soit on est dans le domaine pénal.
Alors restons sur MeToo.
Si on reste sur MeToo, moi il me semble que c'est totalement, enfin, farfelu, c'est peut-être pas approprié, mais pour autant, on ne doit pas rentrer là-dedans. Je reviens quand même sur les 86% dont certaines se plaignent en disant que alors il y a 86% de menteuses. Non, je veux dire, heureusement qu'on a quand même des classements sans suite, et heureusement que la justice est encore rendue par des hommes, et heureusement qu'il y a des hommes et des femmes qui travaillent sur l'application de la loi et qui se disent qu'à un moment donné, les critères du dossier pénal, de l'accusation, ne rentrent pas, ne sont pas remplis pour pouvoir poursuivre l'individu devant la juridiction de jugement, que ce soit un tribunal correctionnel ou une cour d'assises. Heureusement qu'il y a encore ces classements sans suite, parce que sinon on serait, j'ai l'impression qu'on arriverait sur un débordement tel que à partir du moment où l'accusation est formulée, la peine doit être prononcée. Il y a quand
donc
même
il n'y
tout
a rien
un parcours
à améliorer
dans le domaine sexuel, dans le domaine des violences sexuelles.
Oui.
Non, il y a rien à améliorer. Vous avez affaire à des hommes et des femmes, des magistrats qui font leur travail. Vous avez des avocats qui font leur travail, et un dossier de violence sexuelle ne doit pas être stigmatisé au point d'arriver à une justice qui serait créée spécialement pour les violences sexuelles. Je crois qu'on reste dans le domaine, encore une fois, de la loi pénale et de son exacte application.
D'un mot, rien à améliorer, Maître Assous, en ce qui concerne MeToo. D'un mot.
Si, moi je pense que comme dans ce type de procès, ce qu'il faudrait faire, c'est rendre public toutes ces audiences, non pas simplement aux personnes physiques, mais également à l'ensemble du public, c'est-à-dire qu'on puisse filmer. Je rappelle que ceux qui s'y opposent sont les magistrats. C'est jamais les avocats, ni même les avocats des parties civiles. Ceux qui s'y opposent, ce sont les magistrats. Et pourquoi ils s'y opposent? Parce qu'ils veulent pas que l'ensemble des personnes soient témoins de la manière dont ils travaillent.
Filmer
parce
donc
que,
les procès.
Je crois qu'il y aurait un grand décalage filmer et les gens
les
dénonceraient
procès.
Cela. Bien sûr qu'il faut filmer les procès pour que le citoyen soit témoin de la manière dont cette justice est rendue.
Merci Maître Assous d'avoir été l'invité du débat de midi. Béatrice Lavarro, je signale votre livre Défendre Dominique Pellicot. Son avocat raconte apparaître le 28 août aux éditions Mareuil. Merci à tous les deux d'avoir joué le jeu. Demain, on va débattre de notre rapport affectif aux nouvelles technologies. De plus en plus de jeunes se servent de ChatGPT comme psy face à une épidémiologie de solitude. Faut-il encadrer l'usage de ces technologies? Envoyez-nous vos témoignages au 01 45 24 7000. À la réalisation, c'était Riyad Kera. À la programmation musicale, Valentine Chedevoye. À la technique, eh bien, Loïc Frapsos. Midi 45, c'est l'heure de retrouver le jeu des 1000 euros avec Nicolas Stoufflet cette semaine sur l'île de Groix, une émission déjà diffusée en septembre 2024.